aujourd'hui, tout le plaisir est pour nous de recevoir un collègue journaliste bientôt en vacances. C'est seulement dans quelques jours. Jean-Michel Apathy, bonjour.
Bonjour Flavie.
Alors, vous interviewez sur cette antenne tous les matins, 7h50, une personnalité politique ou un leader d'opinion. Vous présentez le grand jury, le grand rendez-vous politique du dimanche soir. Nos auditeurs pourront également vous retrouver, parce que ça y est, c'est terminé, sur Canal Plus à la rentrée comme chroniqueur du grand journal. Vous avez une vie incroyable quand même, vous n'arrêtez pas Jean-Michel Apathy.
Ça s'est un peu empilé comme des assiettes. Alors, on dit oui à tout, mais à force, on se dit tiens, on en fait quand même beaucoup.
Il n'y a pas de casse.
Donc, pour l'instant, non, mais ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas faire ça trop longtemps encore.
Oui, il faut faire attention. J'ai découvert qu'on avait un point commun,
très
Jean-Michel
bien,
Apathy.
Je suis très heureux.
Moi aussi, vous avez fait votre service militaire à Cherbourg.
Exact.
C'est la région où j'ai grandi, justement. Alors, rassurez-moi, c'est aussi bien que le Pays Basque, la Normandie, n'est-ce pas, Jean-Michel Apathy?
Je me souviens encore du jour de février 1978, quand je suis descendu du bus, donc la gare, un bus, et où je suis arrivé à l'arsenal de Cherbourg.
Oui.
Mon projet, je ne voulais pas faire l'armée, mais j'étais obligé. Mon projet, c'était d'aller à Tahiti.
Oui.
Et j'ai essayé de me faire pistonner pour aller à Tahiti.
Oui.
Et le député de l'époque du Pays Basque m'avait dit, je vais réussir à vous faire partir à Tahiti.
Et
je me suis retrouvé à Cherbourg.
Et ben c'est tout aussi bien.
Et la première chose que j'ai dite au capitaine dans l'arsenal, dans le garage de l'arsenal qui m'accueillait, c'est, si je reste ici, je vais me suicider, monsieur.
Ne vous plaisantez.
Il a eu une trouille. Ils ont été totalement gentils avec moi, mais alors ils m'ont fait vraiment bonbon, vous voulez faire ça. Ils ont été d'une gentillesse et au bout de 6 mois, ils m'ont expédié à Toulon.
Ah bon, d'accord. Voilà. Donc, mauvaise expérience à Cherbourg?
En fait, non, parce que autant j'étais déprimé quand je suis arrivé, il pleuvait, j'étais déprimé, autant ensuite j'ai appris, bon, comme toujours, on connaît des gens, on découvre des lieux, toute la côte normande que je ne connaissais pas, je l'ai découverte, j'ai découvert d'excellents restaurants, mais je n'étais pratiquement jamais sorti de mon Pays Basque.
Oui.
Et je dois avouer que être comme ça, propulsé dans la Normandie, un jour de pluie, de février, c'était quand même psychologiquement un peu dur. Ma réaction était bête, mais voilà.
Voilà, et nous on embrasse tous les Cherbourgeois qui nous écoutent. Allez, vive la Normandie. Jean-Michel Apathy est votre invité aujourd'hui jusqu'à 16h. Jean-Michel, l'émission commence dans un instant.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
Tout le plaisir est pour nous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver chaque jour sur l'antenne d'RTL. Si vous vous sentez bien, c'est normal. C'est tout le plaisir est pour nous et c'est maintenant. Et nous allons recevoir aujourd'hui pendant une heure votre invité Jean-Michel Apathy. Alors Jean-Michel Apathy, est-ce qu'on peut dire que le bar de vos parents était un lieu propice à faire naître votre vocation de journaliste? Il s'en passait des choses.
Oui, il s'est passé des choses qui peuvent être assez banales, mais qui pour le jeune adolescent que j'étais, étaient assez fortes. C'est-à-dire, le lieu du Pays Basque où je suis né, est un lieu un peu particulier parce que la tradition paysanne est très ancienne et s'est greffée là au début du XXe siècle parce qu'un type en a eu l'idée, une industrie de la chaussure. Un type a inventé un procédé pour agglomérer du caoutchouc et il a fait fortune avec ça. Et du coup, s'est greffée là une pratique ouvrière et donc une culture ouvrière. Et dans le café que mes parents tenaient, un petit village, se retrouvaient des ouvriers communistes avec des paysans tout à fait de droite. Et c'était...
Alors, un choc des cultures.
Oh là là, vous mettiez un peu d'alcool là-dessus, et alors ça partait, et ça parlait politique, tout rugby, politique, puis c'était que des hommes, s'il faut bien le dire, les femmes étaient exclues de ce lieu-là. Et moi, j'ai regardé, puis un peu participé, et en fait, beaucoup appris dans ce lieu-là. Beaucoup, beaucoup appris. On ne comprend pas toujours ce qu'on apprend quand on découvre tout ça, mais après, on décante un petit peu. Beaucoup appris sur les hommes, sur leur grandeur et puis un peu leur faiblesse, et beaucoup appris aussi sur la vie sociale, la vie politique, la revendication ouvrière, le bon sens paysan. Enfin, là, j'ai vraiment... Il y avait une espèce de terreau absolument formidable dont je me suis beaucoup imprégné sans le savoir. C'est après qu'on comprend tout ça.
Et c'est suite aux événements de mai 68 que vous auriez vu à la télévision que vous auriez décidé de venir vivre à Paris?
Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que mes parents avaient la télévision. Vous savez, mes parents font vraiment partie de ces gens très représentatifs de ce que les Français ont vécu dans les années 60, plutôt pauvres à l'origine, d'origine paysanne. Et puis, un peu d'enrichissement personnel par le travail salarié leur permet de construire une maison, ce qui n'était jamais arrivé dans les deux branches de la famille avant, vraiment, c'est d'acheter une petite voiture, et dans la maison, ils mettent la télévision. Et la télévision, elle ne vous racontait pas dans ces années-là, aujourd'hui c'est un peu pareil, mais un peu moins quand même, la France, mais elle vous racontait Paris. Et moi, petit enfant, en voyant la télévision, j'ai tout de suite compris que si on voulait vivre en France, il fallait aller vivre à Paris. Et j'ai été le seul de mon espèce, soit dans ma famille, soit parmi mes copains, à formuler ce type de projet. Mais j'en avais beaucoup trop peur, bien sûr, de l'idée, et donc j'ai mis longtemps avant de la concrétiser.
Est-ce que vous le pensez toujours ou est-ce que vous êtes vraiment réconcilié avec la province ?
Ah non, je pense que Paris, c'est la France, oui. Et je comprends mal les gens qui disent, par exemple, le monde politique, on met assez souvent à distance les journalistes en parlant du petit milieu parisien, le milieu médiatique, et puis tout ce que vous voulez, qui sont des salades épouvantables. Je pense que ce pays vit encore par sa capitale, énormément. Mmh. On peut le regretter, mais je pense qu'on ne peut pas le contester, en revanche.
Qu'est-ce qui a éveillé votre conscience politique, Jean-Michel Apathy ?
Exactement, je ne sais pas.
Les veines ouvertes de l'Amérique latine.
Ah oui,
le Galeano.
C'est-à-dire que j'ai quitté l'école jeune à 14 ans et j'ai lu dans le désordre un peu n'importe quoi et un peu tout ce qui me tombait sous la main.
Oui.
Par souci de suivre l'actualité, mais en fait tout ça était quand même très imprécis. Je me suis abonné tout seul à l'Express, j'avais 16 ans. Enfin bon. Mais tout ça, c'était un pâté dans ma tête. Et parmi les chocs, effectivement, de toutes ces lectures désordonnées, les veines ouvertes de l'Amérique latine par Galeano m'ont fait comprendre ce que pouvait être la domination de certains pays par un pays, donc la puissance américaine, l'injustice qu'il pouvait y avoir, le double discours, on promeut la démocratie, on soutient les dictateurs, et tout ça, effectivement, ce livre-là m'a beaucoup marqué, peut-être beaucoup aidé, et tout ça, sans le savoir, a participé à la fabrication d'une conscience politique, oui.
C'est vrai que votre engagement politique, il est né un soir de mai 80, alors que vous étiez un garçon de café à Lourdes.
Oui, alors garçon de café à Lourdes le 10 mai, donc je suivais un peu, j'ai pas voté, donc j'étais à la fois inséré socialement et un peu perdu dans ma vie. Enfin, garçon de café, je m'ennuyais un peu. Enfin, je me disais, est-ce que je vais faire ça toute ma vie?
À Lourdes, enfin, bon, en plus, dans un univers particulier.
Mais alors Lourdes, c'était assez... Donc, du Pays Basque, Lourdes, c'était une terre qui était regardée non pas comme une terre religieuse, mais comme une terre où on pouvait faire de l'argent. C'est très pragmatique, en fait. Et aller faire la saison à Lourdes, j'ai eu beaucoup de copains qui faisaient ça. Et un jour, j'ai dit à ma mère, je vendais des voitures, donc j'étais habillé en costume tous les jours.
Votre maman a apprécié, d'ailleurs. Elle a aimé votre période de vendeur de voitures.
Parce que j'avais une cravate.
Exactement.
Elle trouvait ça formidable.
Ah ouais. Ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez une élégance
beau.
Folle aujourd'hui.
Ouais. Parce que je venais vous voir, c'est pour ça que je me suis bien habillé. Et un jour, je lui ai dit que je vais arrêter de vendre des voitures parce que c'était pas fait pour moi. Et je lui ai dit, je vais faire une saison de garçon de café à Lourdes. Alors ça, elle a pas du tout compris.
Ouais.
Mais bref, je l'ai fait. Et je suivais un peu l'actualité sans la suivre. Et du coup, le 10 mai 81, m'est tombé dessus la victoire de Mitterrand. Alors pas parce que je me sentais profondément de gauche et partie prenante à cette aventure, mais tout d'un coup, et vraiment ça m'a surpris, parce que je ne m'attendais pas du tout ni à la victoire de Mitterrand, enfin je n'avais aucune idée, ni à l'effet que ça allait produire sur moi. Quand j'ai vu son visage s'afficher à 20h, j'ai compris qu'un ancien monde s'écroulait.
Oui.
Et si un ancien monde s'écroulait, c'est que l'hypothèse d'un nouveau monde était possible, bon ou pas bon. Et si un nouveau monde était possible à la télé, après tout peut-être il l'était pour moi aussi. Aujourd'hui je raconte tout ça de manière très intellectuelle, mais ça a été pour moi un choc, et je me souviens très bien du moment où ce visage s'est affiché. J'avais, allez le croire, un curé suisse à côté de moi,
oui,
un pèlerin. Et lui, quand il a vu le visage de Mitterrand, il a été aussi surpris que moi, il m'a dit, vous êtes fou. Vous venez de lire les communistes, enfin, vous êtes totalement cinglé. Et je lui ai dit, mais arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est formidable ce qui est en train de se passer. Et en fait, c'est pas que je trouvais que ce qui se passait était formidable, mais je supportais pas que ce type-là, étranger en plus, vienne nous dire qu'on était des gros nazes parce qu'on faisait ce qu'on voulait. Alors, ça a été ma première vraie discussion politique. Et le curé suisse, je peux vous dire que je l'envoyais balader avec un plaisir dont je me souviens encore.
Voilà, c'est Jean-Michel Apathy, votre invité aujourd'hui. Sa voix, vous la connaissez, elle est sur RTL, évidemment, tous les jours, mais jamais à cet horaire-là, de 15h à 16h. C'est un plaisir de vous recevoir. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Tout le plaisir est pour nous.
Tout le plaisir est pour nous donc de recevoir aujourd'hui jusqu'à 16h Jean-Michel Apathy. Je le disais, vous êtes donc originaire du Pays Basque. Vous tenteriez de nous le cacher, de toute façon vous n'y parviendriez pas. Vous êtes donc issu d'un milieu modeste, hein, vous le disiez tout à l'heure, dans un petit village où votre maman faisait pétarader son Solex. Et vous avez failli naître sur ce Solex, on pourrait presque dire ça.
Alors ça, oui. C'est vrai, oui, elle est partie le matin voir le médecin qui lui a dit, oh bon, vous avez le temps, vous n'allez pas coucher tout de suite, enfin, il y a longtemps de tout ça, hein. Les médecins étaient peut-être moins prévoyants et précautionneux qu'aujourd'hui. Puis effectivement, c'est un village là où, à l'époque, il y a des montées, tout ça. Donc elle raconte que voilà, elle pédalait pour revenir de chez le médecin, elle montait les côtes, tu sais, comme Solex, effectivement. Et puis le soir, je suis arrivé, donc à quelques heures
est-ce
près,
que les
mon Dieu, c'était. Oui, c'est ça.
Hein, Solex,
et avec le recul, on se dit, tiens, quand même, quelle robustesse aussi chez ces femmes, jusqu'au dernier jour, travailler. Aujourd'hui, toutes les précautions que l'on prend, et heureusement qu'on les prend, nous font perdre de vue qu'il y a encore quelques années, c'est pas si loin que ça au fond, hein. La vie était beaucoup plus rude et le souci de soi beaucoup moins important. Et vous voyez, ça a quand même fait des beaux bébés.
Donc, un beau bébé qui est là aujourd'hui. Vous êtes un des rares journalistes, Jean-Michel Apathy, politique, avec un accent. Jusqu'alors, les accents du Sud-Ouest, ils étaient plutôt cantonnés à la météo, au rugby. Est-ce que ça vous a posé des problèmes dans votre parcours professionnel?
Non, ça a plutôt été un atout en fait. Parce que
c'est votre charme à vous?
Quand je suis arrivé à Paris, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, je ne savais même pas que la radio et la télévision existaient. Je voulais faire du journalisme politique, mais pour moi, ça ne pouvait exister que dans la presse écrite. Vraiment, je regardais ces gens qui couraient partout
là,
avec des nagras et des micros et un peu de hauteur. Je me disais, les pauvres, ils n'ont même pas le temps de se poser ni de réfléchir. Enfin, bref, c'est-à-dire des idées assez fausses. Et donc, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans la presse écrite. Et puis, le hasard des rencontres fait qu'un jour, j'ai rencontré Jean Lucquès, qui à l'époque était à France Inter, et qui m'a dit, mais viens travailler avec nous, et ton accent, ce sera un plus plutôt qu'un handicap. Et c'est lui qui a plutôt spéculé sur l'accent. Et bon, je me suis dit, tiens, voilà, moi j'ai toujours aimé parler. Je me suis dit, la radio, après tout, c'est pas mal. Et donc voilà.
Et ça ne vous a jamais posé de problème? J'ai entendu dire qu'un auditeur un jour vous aurait contacté en vous disant que politique et accent du Sud-Ouest ne pouvaient pas forcément faire bon ménage.
J'ai reçu du courrier au début qui était en fait teinté d'un certain racisme.
Et vous avez découvert le racisme à travers ça?
Oui, enfin, du moins, la racine est la même que le racisme. C'est-à-dire, parce que vous avez une couleur de peau ou un accent, vous n'êtes pas légitime pour faire telle ou telle chose, ce qui est très crétin. Et donc, j'ai reçu du courrier, vous êtes un rigolo, monsieur, avec votre accent. Puis il y a encore des réactions, on associe beaucoup l'accent à Pagnol. L'accent du Sud-Ouest n'a rien à voir avec le Sud-Est, mais c'est Pagnol qui revient souvent. Et donc, je vois même sur Internet, comme ça, le type avec son accent à Pagnol.
Sur Internet.
Oui, sur Internet, oui, absolument.
Alors, en plus de votre accent charmant, votre originalité aussi, c'est votre parcours, hein, contrairement à certains de vos collègues. Vous n'avez pas fait de longues études, ni Sciences Po, ni l'ENA. Vous avez quitté le système scolaire, vous le disiez, à 14 ans. Vous avez eu votre bac à 24 ans. Vous n'aimiez pas l'école. Vous aviez un problème avec le système scolaire?
Oui, mais je n'ai jamais su lequel, en fait. C'est-à-dire que pendant l'école primaire, alors certes, le primaire, c'est pas polytechnique, mais j'étais l'élève sans doute le plus brillant de la classe. J'ai appris à lire tôt, j'étais bavard, volubile.
Sans blague.
Et en sixième, j'ai totalement arrêté de travailler. Je sais pas, enfin, peut-être que je pourrais l'expliquer, peut-être que ça va trop loin dans l'intimité, je ne sais pas. Et du coup, j'ai totalement arrêté de travailler. On m'a mis dans une cinquième de transition. On a pensé faire de moi un manuel, ce que je n'aurais pas fait avec beaucoup de plaisir. J'ai passé le BEPC au repêchage, tout ça. Et puis, du coup, j'ai été travailler très tôt. Parce que vraiment, l'école, ça semblait pas être la voie. Et j'ai travaillé 10 ans. Avant de reprendre ensuite le chemin de l'école, donc je l'ai fait volontairement, mais j'ai trouvé beaucoup de systèmes, ou bien aussi de gens capables de tendre la main à des personnes qui essayaient de retrouver ce qui leur paraissait être le fil de leur vie. Et donc j'ai passé un examen qui est l'équivalent du baccalauréat, et puis ensuite des études de droit. J'ai fait tout ça avec beaucoup de facilité, beaucoup de plaisir, j'en garde un souvenir extrêmement doux. Je me réconcilie un peu avec moi-même, je crois, en faisant ça. Et aux gens qui me disent « Ah, ça doit être dur de reprendre des études », non. Ça a été un vrai plaisir et une vraie douceur.
Alors vous êtes totalement autodidacte. Hein. La culture que vous avez aujourd'hui, vous l'avez acquise grâce à la lecture. La lecture, c'est quelque chose de très important.
La lecture est désordonnée. Ouais. Voilà, j'ai lu un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Un peu, je sais pas, des auteurs classiques de la littérature française, mais je suis loin de les avoir tout lus. Des livres de sciences politiques ou d'autres choses que peut-être je n'aurais jamais lus. Puis j'ai pas lu peut-être ce qu'il faudrait. Montesquieu, tout ça, j'ai jamais lu. Voilà, mais j'ai lu d'autres choses. Et puis je me suis fait une culture tout seul, de briques et de brocs. Et les études que j'ai fait après, ça m'a mis comme des étagères dans le cerveau. J'ai un peu tout rangé comme ça. Il y a encore un peu de désordre, mais plus beaucoup en fait. Et donc du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et la construction comme ça, un peu anarchique, je n'ai jamais été culpabilisé, par exemple, de ne pas avoir fait Sciences Po. Les premiers reportages que j'ai faits, je m'en souviens assez bien, en presse écrite, tous les gens que je voyais, des jeunes journalistes, enfin, il y avait 25 ans, 26 ans, qui étaient au Monde, enfin, j'ai un souvenir d'un journaliste du Monde, d'un autre d'Europe 1, tout ça, ils avaient fait ça à Sciences Po, tout ça, on voyait qu'ils étaient vraiment bien construits. J'ai jamais eu le complexe par rapport à ça. Je savais que j'étais un peu déconstruit, un peu cabossé comme ça, mais voilà, je m'en foutais un peu. Et je m'en fous toujours, en fait.
Vous avez bien raison. Jean-Michel Apathy, le livre.
Je dis ça, mais c'est pas non plus un avantage, hein. c'est pas une supériorité, c'est autre chose.
Oui, c'est un autre mode de fonctionnement.
D'appropriation des choses, de fabrication, de voilà. C'est pas mieux, mais c'est pas plus mal non plus.
Voilà. Jean-Michel Apathy, dans un instant, nous allons parler des hommes politiques que vous connaissez si bien.
Flavie Flamand.
Tout le plaisir est pour nous
sur RTL.
Jean-Michel Apathy, vous avez interviewé sur l'antenne d'RTL ou dans d'autres médias de nombreuses personnalités, notamment politiques. Si vous le voulez bien, on va jouer ensemble. Ah. Vous allez me dire lequel de nos hommes politiques correspond le mieux aux objectifs suivants. Quel est l'homme politique le plus drôle? Celui qui a le plus d'humour?
Jean-Louis Debré, incontestablement. À sa manière, alors ça se voit pas beaucoup, Laurent Fabius. Ça se voit pas beaucoup, hein. Et puis, je sais pas, il y en a peut-être d'autres, mais voilà. Jean-Pierre Raffarin aussi, c'est drôle.
Ah oui ? Oui. Raffarin aussi.
Assez drôle, oui.
Le plus colérique ?
Le plus colérique des colériques, c'est Bernard Tapie. Ça, c'est clair. Un jour, je lui ai posé une question de travers, ça a donné une réponse assez violente au micro, et puis le micro se ferme, et son adjectif, c'était « vous êtes un connard ». Ce à quoi je lui ai répondu, qu'est-ce que c'est dommage que vous ne l'ayez pas dit au micro, parce que me le dire là, tout le monde s'en fout. Hein.
Et maintenant, tout le monde le
mais
sait.
Mais au micro, ça aurait été mieux. Hein. Mais bon.
L'homme politique le plus séducteur ?
Ah, le plus séducteur, Barouin, l'est pas mal. À sa manière, Lagarde, Christine Lagarde l'est aussi. L'empathie est une carte importante chez elle. Peut-être qu'elle est naturelle d'ailleurs, mais on la recherche, l'empathie. Qui d'autre ? Ah, je ne vous ai pas cité dans les colériques, il y a Mélenchon quand même. Faut pas l'oublier.
J'y ai pensé. Mélenchon, oui.
Oui, monsieur, monsieur. Oui, oui, je l'avais oublié parce que. Parce qu'il y a aussi du charme, mais c'est plus éruptif, oui.
Oui, ça y va quand même.
Et voilà.
Le plus langue de bois.
Ouf ! Alors là. Il y en a tellement.
Voilà, c'est difficile, dans quelle mesure ?
Hervé Morin, peut-être, mais bon. Le plus langue de bois. Quand il était ministre, Jean-Louis Borloo. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres.
Le plus intelligent, le plus brillant.
Il y en a beaucoup qui sont très intelligents, évidemment. Pour faire de la politique, il faut aller vite et puis il ne faut pas se tromper. Le plus intelligent, Hollande, est très intelligent. Parce qu'Hollande Royal a une intelligence de la situation politique qui est assez bluffante, je trouve. Puis Nicolas Sarkozy est aussi un être un peu hors norme par l'intelligence, oui, oui, bien sûr.
Le plus bavard, le plus sale gosse.
Ah, le plus bavard. Ils sont tous bavards. Ils feraient notre métier s'il n'était pas. Hein. Ils font des réponses. Ils s'écoutent parler, ils n'écoutent pas les autres.
C'est difficile, justement. C'est vous, vous parvenez quand même à rentrer dans leur, entre deux mots.
Oh
pour
non, il y en a qui quand même prennent le truc et puis le gardent.
Lesquels ?
Il y en a qui m'échappent. Ségolène Royal, très forte. Ségolène Royal, il y a des périodes où elle peut être très à l'écoute de la question. Et vraiment, on peut travailler avec elle, vraiment. Ouais. Et puis d'autres fois, soit fatigue, soit état d'esprit, je ne sais pas, elle peut partir de la question, et puis dériver, et puis elle vous a pris 3 minutes, 4 minutes, et vous n'avez pas pu la couper. Puis si
et vous devez
la couper,
rendre l'antenne.
Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est une frustration assez importante. Oui.
Le plus calme, le plus posé.
Ah, le plus endormissant.
Ah, j'ai pas dit ça, c'est à vous de traduire.
Le plus calme et le plus posé, je ne sais pas. Là aussi, il y en a beaucoup, vous voulez me fâcher avec qui, là? Alors. Non, je peux pas répondre.
Ok,
je peux pas répondre. Chacun a sa langue de bois. Hein. Non, parce que voilà, je peux pas répondre.
Quel est le seul homme politique, Jean-Michel Apathy, avec lequel vous ayez dîné ?
Alors j'ai dîné avec un homme politique, ouais. Ça c'est vrai, oui, qui est Jean-Marie Bockel.
Mm-hmm. Au Lutetia.
Au Lutetia, c'était fin des années 90, et il m'avait invité donc à dîner. Mais c'était un dîner très professionnel pour le coup, mais. Et il y avait une autre journaliste, je travaillais à l'Express à l'époque, mais j'évite vraiment.
C'est important pour votre déontologie de
c'est-à-dire,
ne pas
il faut
lier.
Toujours, on peut avoir une forme de sympathie professionnelle pour quelqu'un, mais il faut toujours faire comprendre à un responsable politique que lui il est responsable politique, moi je suis journaliste. Et que sinon, si on se retrouve comme des copains dans des lieux, dans des situations qui sont un peu ambiguës, il vous dit des trucs en sachant que vous ne les utiliserez pas puisque la relation est une relation amicale et vous ne pouvez pas vous faire ficeler comme ça par l'amitié de l'homme politique. Mmh. Et puis vous devez être à tout moment capable de dire des choses désagréables sur quelqu'un, de poser des questions désagréables, de faire le travail que vous oblige à faire à l'actualité. Le contrat, c'est ça. Et donc, le dîner est une situation d'ambiguïté formidable. Donc moi, j'ai toujours évité, je suis peu sollicité d'ailleurs.
Avec Jean-Michel Apathy,
dîner,
pas de dîner.
Dîner, week-end, faut pas ça.
C'est juste à l'heure du petit déjeuner. Avec
et déjeuner aussi, on
les personnalités
déjeuner,
politiques. En tout cas, c'est l'heure du thé et vous êtes avec nous. Et c'est un plaisir de vous recevoir et de s'intéresser à vous, justement, Jean-Michel Apathy.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
Tout le plaisir est pour nous.
Et voilà, et c'est pas une position habituelle pour lui, puisqu'il est l'invité, justement, aujourd'hui, Jean-Michel Apathy, et c'est moi qui pose les questions, et c'est un plaisir, donc, de vous recevoir.
Mais c'est agréable de répondre aux questions.
Très bien, Jean-Michel. Bon, on le disait tout à l'heure, vous avez arrêté vos études à l'âge de 14 ans, et puis vous les avez ensuite reprises, et ce chemin vous a amené à la fac en droit public. Alors, c'était pas du tout pour devenir avocat, mais c'était pour étudier la politique et l'histoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est la passion de l'actualité qui vous a vraiment toujours dirigé ?
Non, pas la passion de l'actualité. Ce qui m'intéresse et ce qui encore suscite chez moi beaucoup d'émotions, c'est plutôt la culture collective. Qu'est-ce que c'est d'être français ? Comment on réagit ? Qu'est-ce qu'on a fabriqué comme repère, comme tabou, comme refus ? La question qui me passionne le plus, c'est la question de la culture qui fait que nous nous sentons français. C'est ça qui m'intéresse. Et tous les faits de l'actualité permettent de supporter cette réflexion. Et ce pays qui court après ce qu'il a été, qui est douloureux aujourd'hui, je trouve, est intéressant à regarder pour ça. Et en fait, ma position professionnelle fait que je me vis comme un spectateur de ce que nous ressentons tous. Et au fond, pas comme un membre à part entière de la communauté. Et c'est une position qui me plaît beaucoup, qui satisfait la part extrêmement indolente qu'il doit y avoir chez moi.
Alors avant justement d'être un spectateur du monde, vous êtes arrivé à Paris, c'est donc pour vous l'arrivée dans un monde nouveau, vous avez quoi, 24 ans c'est ça, 25
ans ? À l'époque, non, quand j'arrive à Paris, j'ai un petit peu plus que ça, je suis arrivé en 1987, j'ai 29 ans.
Voilà, vous êtes un petit jeune en tout cas,
ah oui,
vous arrivez
jeune.
À Paris, à vous quittez le Pays Basque.
J'avais des cheveux, tout.
Ah oui, long
tout ce qu'a un jeune. Bouclé, assez long, oui, avec une barbe.
Waouh.
Je pense qu'on ne m'aurait pas reconnu, non, là, enfin, par rapport à ce que au visage que j'ai aujourd'hui.
C'est la photo
éloigné.
Qui est sur votre permis de conduire ?
Oui, c'est ça, oui.
Ouais, génial.
C'est celle-là, oui.
Bon, on va essayer de le voler et de shipper votre permis de conduire, ça m'intéresse, ça.
Ouais.
Bon, quand vous arrivez avec vos cheveux longs, votre barbe et tout, donc à l'âge de 29 ans, vous logez dans un foyer basque.
Ouais.
Est-ce que vous avez le mal du pays ou est-ce que c'est une question
non.
de commodité ?
Ah oui, c'était vraiment une facilité. Oui, j'y suis resté un mois.
Ouais.
Non, c'était vraiment une question de facilité parce que je connaissais personne, parce que voilà. Et puis après, j'ai aménagé assez vite dans un appartement. Non, je ne voulais pas vivre au Pays Basque en étant à Paris. Non. Sinon, il fallait rester au Pays Basque.
Jean-Michel Apathy, vos premiers papiers contre toute attente n'étaient pas des papiers politiques.
Ah non.
Pour quel média travaillez-vous ?
Alors, en fait, je suis arrivé à Paris, je voulais faire du journalisme politique.
Oui.
Mais il fallait faire bouillir la marmite.
Voilà.
Et donc, bon, et puis ça m'a assez plu. Donc, j'ai cherché des piges, c'est-à-dire du travail au coup par coup. Et comme j'avais dans un stage dans les pays atlantiques couvert quelques foires de chiens et tout ça, j'ai tapé à la porte du magazine 30 millions d'amis. Et voilà, j'ai fait des piges sur les chiens, sur les teckels, sur des poissons géants qu'il y avait dans des aquariums, enfin des trucs un peu folkloriques. Et ça m'a bien plu, bien amusé, parce que j'ai rencontré des gens sympas.
Ouais.
Des gens qui avaient des préoccupations qui leur faisaient ressortir des bons sentiments. Voilà. L'amour de quelque chose, enfin, pas des gens violents, mais des gens qui donnaient quelque chose. Alors, du coup, ça m'a bien plu. Et puis voilà, j'ai travaillé aussi pour d'autres secteurs professionnels comme ça, la papeterie, la carrosserie automobile, enfin j'ai fait des papiers sur ces sujets-là. Et bon, je trouve ça assez amusant. Comme j'espérais que ça n'était qu'un point de passage, j'ai trouvé ça assez amusant.
Alors effectivement, c'était un point de passage et vous avez signé vos premiers papiers politiques dans le magazine L'Hebdomadaire Politis.
Oui.
Vous avez dû batailler ferme pour rentrer à Politis.
Alors Politis, le premier numéro de Politis est sorti un 21 janvier 1988, c'était un mercredi. Et je me suis dit, ah, c'est bête quand même, c'est une rédaction qui se monte. Et je connaissais le projet, c'est un projet qui était très à gauche, donc moi ça me plaisait. J'avais pas envie de faire du journalisme engagé. Mais en même temps, quand j'ai vu le journal, je me suis parce que les autres journaux, ils avaient besoin de moi. Je me suis dit, tiens, quand même. Alors j'ai téléphoné ce mercredi-là, j'ai essayé de joindre le chef du service politique, c'est sa secrétaire qui m'a répondu. J'imagine que le contact a été assez bon parce qu'elle m'a dit, bon là, il peut pas vous prendre, rappelez mercredi prochain. Et j'ai rappelé pendant 3 mois, tous les mercredis. Et un jour, elle me l'a passé. Et elle me l'a passé parce que le type cherchait un pigiste, parce qu'il avait besoin. Il m'a dit, bon oui, venez me voir. J'ai fait un papier. Ça lui a bien plu, j'en ai fait un deuxième, tac, 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 et comme ça, après, il m'a embauché.
Voilà.
Mais pendant 3 mois, je téléphonais tous les mercredis. Et ça, je l'aurais fait pendant 2 ans, s'il avait fallu.
Voilà.
5 ans, je l'aurais fait tous les mercredis.
Il faut persévérer, hein, dans la vie, il faut s'accrocher à ses
rêves. C'était même pas une question. C'était, voilà, je devais le faire, je le fais, voilà. Je me souviens, ma copine de l'époque me disait, mais enfin, arrête, quoi. Et j'entendais pas, mais non, enfin, arrête, bon, enfin. Non, il faut le faire. Il faut faire ce qu'on doit faire, voilà. J'essaie d'inculquer ça à mon fils. Il faut faire ce qu'on doit faire, voilà. Il y a des choses qu'on doit faire dans la vie, donc il faut les faire.
Et c'est comme ça que tout a commencé pour Jean-Michel Apathy, votre invité aujourd'hui dans Tout le plaisir est pour nous.
Tout le plaisir est pour nous
sur RTL. Flavie Flamand.
Jean-Michel Apathy, l'un de vos combats majeurs, c'est le refus du mensonge des hommes politiques. Dès votre passage à Paris, vous avez appris presque par hasard l'un des plus gros mensonges de la Ve République. C'est l'existence évidemment de Mazarine, la fille cachée du président. Quels souvenirs en gardez-vous ?
Je sors d'un point de presse du Parti Socialiste, parce qu'à l'époque je suivais le Parti Socialiste. Et un vieux journaliste, je n'ai jamais su où il travaillait d'ailleurs, certains disaient qu'il appartenait aux renseignements généraux, vrai, faux. Un vieux journaliste, je ne sais pas, il m'avait pris un peu à la bonne, alors des fois on parlait, sur le trottoir devant le siège du Parti Socialiste, il me dit, tu sais que Mitterrand, il y a une fille cachée. Tu parles, tiens. C'était en 89, où j'ai dit, bon. Et puis j'ai jamais posé la question, et jusqu'au jour où Paris Match 94, oui, Mitterrand avait une fille cachée. Donc voilà. Je sais pas ce que j'en aurais fait. C'est pas le mensonge, oui. Alors, c'est pas ce type de mensonge seulement. Quand je vous parlais de la culture d'un pays, je pense que, pour des raisons qui seraient longues à expliquer, à détailler, à analyser, mais qui sont assez passionnantes, ce pays s'est fabriqué une culture où le mensonge a une large part. C'est un peu comme un individu qui, avant d'aller chez un psychanalyste, se ment beaucoup à lui-même. Collectivement, c'est ce que nous faisons. Et nous n'avons pas trouvé le psychanalyste qui est capable de nous mettre face à nous-mêmes. La recherche journalistique, c'est sous cet angle-là que je l'aborde. Oui. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment. Essayer de décoder la manière dont le verbe pervertit la réalité. Mmh. Alors, évidemment, Mazarine, c'est le mensonge par évidence, c'est-à-dire on cache une réalité. Mais la recherche, la traque de la culture mensongère va bien au-delà de ça. Ça, c'est l'exemple le plus qu'on partage tous, qu'on comprend tous. Le reste, ça peut être parfois un peu intellectuel, voire un peu fumeux, parce que voilà, quand on coupe les cheveux en quatre, quelquefois, on n'est pas toujours sur le bon chemin. Mais la recherche, c'est ça. Nous avons fabriqué une culture mensongère. À l'inverse, par exemple, il y a des pays qui nous permettent d'identifier ça, de la Grande-Bretagne, qui a une relation à la réalité qui est beaucoup plus forte. Quand en Inde, les mouvements séparatistes se lèvent, en Inde, en 1947, les Britanniques disent tout de suite, on va donner l'indépendance à l'Inde. Quand la France est confrontée à ça en Algérie en 1954, elle fait 8 ans de guerre avant de convenir de la réalité. C'est ça, je trouve ça passionnant. Il y a des pays qui savent regarder la réalité, qui souffrent avec, et nous, on souffre avec le mensonge. Voilà. De toutes les façons, on souffre toujours. Mais ça, c'est autre chose.
Alors, à propos de mensonge, un jour, vous avez également, quand vous étiez journaliste à l'Express, fait une course-poursuite dans les couloirs de la mairie de Paris pour avoir des réponses aux affaires de détournement du système Chirac. Vous ne l'avez pas lâché ce jour-là. Hein.
Oui, c'était... Alors, il est sénateur. Est-ce qu'il est toujours sénateur? Comment s'appelle-t-il? C'était un adjoint de Chirac. Alors, c'était un pétard extraordinaire, cette mairie. Donc, il était adjoint de Tibéri à l'époque. Et il y avait une actualité, je ne sais plus ce qu'elle était. Je voulais lui poser des questions. Enfin, voilà. Et le type, il me voit dans loin. Il s'en va en courant. Et je cours après. Et je suis enfermé dans un bureau. Vous vous rendez compte? Ça, c'est des élus qui doivent des comptes aux citoyens.
Justement, quelle image on a à ce moment-là de l'homme politique?
Scandale. Bon, nul. Ouais. Nul. Et il a été ministre après. Je retrouve son nom, tiens. Il est sénateur où il a été encore récemment. Je ne sais plus s'il est là. Parce qu'il n'est pas tout jeune non plus. Hein. Courir dans les couloirs, vous vous rendez compte? Pour s'échapper. Minable, ça, hein.
Alors, ce refus du mensonge, il vous a également obligé à renoncer à un projet de biographie de Lionel Jospin.
Ah oui, alors ça, c'est une histoire assez compliquée. J'avais signé un contrat chez Grasset. Ouais. Et j'avais une porte d'entrée psychologique chez Jospin qui était la relation à son père. Et je pense qu'on a toujours mal raconté Lionel Jospin. Enfin, ça, c'est ma prétention à moi, parce qu'évidemment, on a tous nos petites prétentions. Et moi, je voulais construire quelque chose de psychologique. Et j'ai vu deux fois Jospin, qui était Premier ministre à l'époque, pour le livre. La première fois, on a parlé. Puis la deuxième fois, je me suis un peu plus dévoilé pour... Et il a fermé la porte tout de suite, ce qui est son droit, d'ailleurs. Hein. On peut pas lui reprocher. Ouais. Enfin, voilà, chacun donne ce qu'il veut. J'ai arrêté d'enquêter. Enfin, sans sa participation, tout ça a été évidemment difficile. Et puis, même si sa participation n'avait pas été importante, j'aurais pu le faire. Mais quand elle était totalement écartée, c'était très difficile. Et évidemment, derrière ces questions-là, il y avait son appartenance, son passé trotskiste qu'il cachait, tout ça. Enfin, bon, il y avait tout un micmac, là. Et du coup, je me suis jamais beaucoup projeté dans les livres. Celui-là, j'en ai abandonné le projet. Puis j'en ai pas fait beaucoup après. Voilà, je suis pas un journaliste de bouquins.
Votre goût des questions dérangeantes vous a valu un sonore salopard de Roselyne Bachelot.
Ah oui. Alors Roselyne Bachelot.
Alors, nous, on l'a pas entendu. Hein.
Non, personne l'a entendu. C'est-à-dire, enfin, personne. Si, il y a des gens qui l'ont entendu, mais en fait, Roselyne Bachelot, un jour, c'était au printemps. À l'automne 2003, c'était la première saison que je faisais sur RTL, elle est au micro, bon, l'interview se passe comme ça, et à tous les ministres qui passaient à l'époque, je leur posais la question à partir de l'article de l'Express, est-ce que c'est vrai que Chirac a un sonotone, quand même, c'est quelque chose de Chirac avec un sonotone. Et alors les autres, Fillon notamment, s'était tiré de ce piège, il avait fait une réponse totalement vasouillarde, mais bon, il était passé au travers, et elle voit arriver le missile comme ça. Comme ça va vite. Une seconde, elle cherche à se dégager, elle se dit oh putain, où je suis. Et la phrase qui sort, c'est il me semble, elle cherche encore que oui. Patatras. C'était un mercredi matin.
Bingo.
Conseil des ministres. Alors là, ça a été l'affaire d'État. Chirac en son automne. Chirac serait-il vieux? Le président de la République qui ne vieillit pas, qui n'est pas malade en France, pourrait devenir sourd. Enfin, c'est totalement ça a mis un bazar incroyable. Et le printemps qui a suivi, elle a été virée du gouvernement. Mm-hmm. Bernadette Chirac, il en a voulu. Et l'année d'après, 2005, je vais au 14 juillet à l'Élysée. Et donc, dans la salle des fêtes de l'Élysée, Je l'avais vue peut-être une ou deux fois avant, mais là, elle me voit et puis elle lâche un sonore salopard. Et là, il y a les gens qui étaient autour, ils disent, quoi, qu'est-ce qui se passe à ce lieu, quand même. Et voilà, mais en fait,
vous avez tout de suite compris.
Oui, c'était ouais. Assez drôle, c'était assez, voilà, c'est, voilà, elle dégage quand même la sympathie dans ces situations-là, Roselyne Bachelot. Et donc, mais le salopard sonore avait beaucoup surpris dans la salle des fêtes de l'Élysée, où tout de même, on a davantage de maintien que ça. Hein. Je l'avais un peu mérité aussi, il faut dire. Hein.
Jean-Michel Apathy, dans un instant, je vais vous demander de laisser un message sur le répondeur de cette émission.
Tout le plaisir est pour nous
sur RTL.
Voici donc venue l'heure du répondeur de tout le plaisir et pour nous, Jean-Michel Apathy, à qui avez-vous décidé de vous adresser ?
Je vais profiter de l'émission pour laisser un message sur le répondeur de Roger Federer.
Eh bien, place au répondeur, vous parlez après le bip sonore.
Vous êtes sur la messagerie vocale de votre correspondant. C'est à vous après le bip.
Bonjour Monsieur Federer, Jean-Michel Apathy à RTL. Je vous appelle parce que j'ai découvert et j'ai donc commencé à jouer au tennis il y a un an et demi. J'adore ça. J'y jouerai tous les jours si je pouvais. J'y passerai des heures sur le court. Et j'ai besoin d'un coach, d'un bon prof. Et comme quand même vous êtes formidable, d'une élégance rare, eh bien, si vous êtes libre, appelez-moi, on prend rendez-vous. Ciao.
C'était donc la... Oh, c'était même une petite annonce, hein. C'était plus un message là. Non. Justement, une demande pour Roger Federer de Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, j'ai l'impression que vous avez fait plein de choses. Vous avez pris le temps pour faire certaines choses. C'est-à-dire que vous avez fait des enfants un petit peu tard. Vous faites du tennis depuis un an et demi. C'est fou parce que c'est votre jeunesse là en ce moment. Vous vivez votre adolescence.
Non, mais peut-être que je vis une vie à l'envers.
Voilà, et ben en tout cas, je vous la souhaite belle, cette vie à l'envers. Et c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui.
J'étais très heureux d'être votre invité.
Je rappelle donc à nos auditeurs qu'ils pourront vous retrouver à la rentrée sur RTL du lundi au vendredi à 7h50 pour l'invité de RTL. Tous les dimanches à 18h30 pour le grand jury. Vous passez un temps fou en fait chez nous. Hein. Vous êtes une des grandes voix d'RTL. Hein. Et puis également avec l'image, c'est sur Canal+ pour le grand journal du lundi au vendredi à 19h. Merci.
Merci
bonnes vacances à vous. Passez un très bon été.
À vous aussi.
Reposez-vous bien. On se retrouve à la rentrée.
Avec plaisir.
Vous chez vous, vous pouvez réécouter cette émission sur rtl.fr. Demain, nous avons rendez-vous dans ce studio dès 15h avec Bernadette Lafont. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée à l'écoute d'RTL et les grosses têtes dans un instant. Je vous embrasse.